Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, un événement d'il y a 60 ans. C'était le 22 avril 1961, le putsch d'Alger. Le 20 avril 1961, à 16h, en montant à bord du transport de troupes Nord 2501, le général d'armée Maurice Schall, ex-commandant en chef des troupes en Algérie, franchit le Rubicon. Il est désormais un clandestin, bientôt un rebelle. Originaire des montagnes de Provence, c'est un homme froid, qui n'est pas coutumier des coups de tête. Il réagit à l'expression « Algérie algérienne » prononcée par Charles de Gaulle le 4 novembre 1960. Quelques mois plus tôt, Maurice Schall rejoint Georges Bidault, Jacques Soustelle, Marc Loriol, député d'Alger, les généraux André Zeller et Jean-Étienne Valuy, qui s'interrogent sur le devenir de l'Algérie. Il rencontre à l'école militaire des officiers supérieurs, dont le colonel Antoine Argout et le capitaine Pierre Sergent, anciens du 1er régiment étranger de parachutistes. Ils sont convaincus de l'urgence d'une révolution et surtout de la nécessité d'éliminer le président de la République qui est à leurs yeux la cause des maux de l'Algérie. Ils sont persuadés que l'armée est mûre pour s'emparer du pouvoir. Le vendredi 21 avril 1961 à 9h, l'état-major putschiste est réuni à Alger. Sont présents le général Gardy, ancien inspecteur de la Légion étrangère, André Zeller, préposé aux questions administratives, le général Edmond Jouot, un pied noir chargé des contacts avec la population et quelques officiers, dont le colonel Yves Godard, ancien chef de la Sûreté d'Alger, et le commandant Élie Denoy de Saint-Marc, patron par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes, fer de lance du putsch. Maurice Schall fixe leur hache à 2h dans la nuit du 21 au 22 avril. Une heure plus tard, tous les objectifs sont atteints. Alger est prise. Dans la ville endormie, le pouvoir a changé de main. À l'aube, c'est la surprise. Les Algérois entendent la voix du général Schall annoncer « Je suis à Alger ». Avec les généraux Zeller et Jouot, en liaison avec le général Salan, pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. La première désillusion vient de Constantine, où le général Marie-Michel Gouraud hésite. Or, il contrôle la région du territoire algérien la plus tardivement pacifiée, celle où se trouve le plus de troupes d'élite. Finalement, il adopte une prudente position attentiste. En Kabylie, le général Jean Simon se démarque également. Au soir du 23 avril, Charles de Gaulle s'exprime. Il condamne sans appel les auteurs de la tentative de coup d'État. Un quarteron de généraux en retraite, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ensuite, il délie les militaires de leur devoir d'obéissance envers leur chef si ceux-ci suivent les généraux rebelles. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'allocution présidentielle porte, Maurice Schall s'en aperçoit vite, en Algérie la situation se dégrade rapidement. À Oran, le général Henri de Pouilly refuse de s'engager aux côtés des putschistes, il est arrêté. L'aviation est opposée au coup de force, la marine adopte une attitude semblable, beaucoup de jeunes du contingent se démarquent. Des officiers factieux. Le 25 avril à 16h, Maurice Schall rassemble les chefs de corps restés fidèles. L'atmosphère est tendue. Il déclare avec gravité : « Messieurs, rentrez dans vos garnisons avec vos unités, l'affaire est finie. Nous avons échoué. Il faut maintenant en tirer les conséquences. Je ne vous laisserai pas payer tout seul. Rassurez-vous, ce n'est pas mon genre. Après l'intervention de Jean-Jacques Susini, le petit maître à penser de la future organisation armée secrète, l'OAS, il rejoint le peuple d'Alger. À 18h45, il arrive au siège du gouvernement général pour signer l'ultime pièce du putsch, une déclaration à la population annonçant la mobilisation de 8 classes de pieds noirs et conseillant à tout le monde de prendre les armes pour sauver l'Algérie française. Mais cet appel reste sans réponse. Ensuite, il exprime à Raoul Salan son désir de se livrer. À 23h, André Zeller revêt des vêtements civils, puis après avoir salué ses camarades, se perd dans la foule. À minuit, Maurice Schall éteint les lumières pour que les Algérois massés sur le forum se dispersent. À 1h du matin, accompagné de Raoul Salan et Edmond Jouot, il évacue le bâtiment du gouvernement général, puis monte dans un camion militaire pour gagner la base de Zeralda. Là, il prend congé de ses acolytes. Pour eux s'ouvre la perspective d'une vie clandestine au sein de l'organisation armée secrète. Maurice Schall et Élie Denoy de Saint-Marc se retrouvent seuls. À 9h, une Citroën anonyme conduite par un adjudant de gendarmerie quitte Zeralda. À l'arrière, sont assis en civil Maurice Schall et un lieutenant-colonel de l'état-major. Cette fois, le putsch est bien fini. Il a duré 4 jours et 5 nuits. L'armée d'Algérie en sort à jamais brisée. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. Hommage à Patrick Juvet qui vient de nous quitter. Nous écoutons « Où sont les femmes ?». Ce sera ensuite la chronique littéraire, un jour 3 livres, 4 livres exceptionnellement aujourd'hui, et elle sera présentée par Emmanuel.
Masada. Masada de Sylvestre Sbille aux éditions Plon. Masada, après la chute de Jérusalem, noyée dans le sang, les derniers rebelles juifs ont trouvé refuge à Masada, la forteresse. Mais les Romains sont opiniâtres. Ils sont près de 8000, avec à leur tête le général commandant de l'armée romaine en Judée, Lucius Flavius Silva. Pour ceux qui ont visité Masada, on voit encore les traces des camps romains entourant la forteresse, ainsi que celle de l'énorme rampe construite par les Romains. Le siège va durer 7 mois et la forteresse tombe le 2 mai 73. Là-haut, au milieu de 1000 zélotes, Agar et son petit frère accomplissent les corvées d'eau, écoutent les grands parler du Tout-Puissant qui pourrait encore venir les délivrer. Mais seul le suicide collectif viendra les délivrer. Lorsque les Romains pénètrent dans Masada, seules 2 femmes et 5 enfants ont survécu. En bas, dans le village de Fortune, où se comptoient ceux qui servent l'armée, entre autres Janu, 15 ans, espérant d'être adopté par le général romain, et Isis, une putain égyptienne, obsédée par la citadelle. Ce roman nous transpose au milieu de cette tragédie, mais nous interroge aussi sur notre propre spiritualité judéo-chrétienne, née de ce mélange de pragmatisme et de spiritualité. Masada, Sylvestre Sbille, édition Plon. Petite, d'Édouard Carré aux éditions Le Cherche Midi. Voici la biographie de l'Alsacienne la plus connue au monde. À Strasbourg, elle est employée comme apprentie par un sculpteur sur cire. Le duo va monter à Paris, rencontrer les personnalités de l'époque, Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin. Elle sera accueillie par Madame Élisabeth, la sœur du roi, à qui elle va prodiguer des leçons de sculpture. Échappant de peu à la guillotine, elle est chargée d'exécuter des masques mortuaires, ceux de ses amis les plus proches, notamment le roi, mais aussi ceux de ses plus féroces ennemis, notamment Robespierre. C'est sa vie qui est retracée dans cette biographie pour laquelle l'auteur a consacré 15 ans de sa vie. Vous y trouverez aussi de fabuleux dessins de l'auteur. Petite, Édouard Carré, édition Le Cherche Midi. Le parfum de l'exil. Ce roman est inspiré de l'histoire familiale de l'auteur d'origine libanaise et arménienne. Au décès de sa grand-mère, Nona, Taline, à la tête d'une entreprise de parfums, découvre un carnet en cuir rédigé par Louis, son arrière-grand-mère, sous le massif de jasmin du jardin. Au fil des pages, défile sous ses yeux tout un pan de son histoire familiale, le génocide arménien, la peur, l'horreur, l'exil, mais aussi l'espoir et la renaissance. Ce génocide, perpétré d'avril 1915 à juillet 1916, avec des épisodes se poursuivant jusqu'en 1923, au cours duquel près d'1 200 000 Arméniens d'Anatolie et d'Arménie occidentale ont péri de déportation, famine et massacre, a été planifié et exécuté par le Parti des Jeunes Turcs. Le parfum de l'exil, Ondine Kayat, aux éditions Charleston. Et pour finir, Nefertari Dream. Nefertari Dream de Xavier-Marie Bonneau aux éditions Bellefond. Rodolphe Cordier, archéologue, vit non loin de Nefertari Dream, un bazar à touristes sur la rive ouest du Nil qui vend de l'antique Antoque et du faux rêve. Rodolphe, empli d'égyptologie, évite de regarder l'Égypte moderne, un pays pauvre, un peuple qui marchande son patrimoine, plie sous la dictature et sous le joug des frères musulmans. Mais sa route va croiser celle de Noah, d'origine copte, la rebelle, l'amie d'Amina, médecin et militante islamiste. Au moment où Rodolphe vit son rêve dans la vallée des Rennes, la révolution est en marche. Ce roman met en exergue l'Égypte, pays attachant, empli de tellement de contradictions qu'il éclate de toutes parts. Nefertari Dream de Xavier-Marie Bonneau aux éditions Bellefond.
Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en musique après avoir remercié Lucas qui l'a réalisé. Nous écoutons Plastic Bertrand avec son principal succès, Ça plane pour moi, titre sorti en 1977, la même année que Où sont les femmes de Patrick Juvet. Bye.
sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Oh,